Y hemos puesto las diapos en español y él lo hará en francés. Y nada, agradece a la IRG el que le hayamos invitado.
Va a comenzar por hablar de la cistinosis, que es una... est une maladie génétique qui est transmise selon le mode autosomique récessif, ce qui signifie que les parents sont indemnes de la maladie, mais que le gène sur un de leurs chromosomes est anormal, et les deux parents transmettent sur un de leurs chromosomes un gène anormal à leur enfant, qui est donc atteint de la maladie.
Va empezar a hablar de la cistinosis, que es una enfermedad autosómica recesiva, lo cual quiere decir que los padres del niño afecto son sanos, portadores del gen enfermo, y el niño tiene las dos copias del gen enfermo.
Alors, ce qui se passe dans la cistinose, c'est que le gène code pour une protéine qui s'appelle la cystinosine et qui permet le transport de cystine hors du lysosome.
Se trata de un defecto en una proteína que es la cistinosina, que es el transportador lisosomal de cistina, y esto es lo que hace el transporte de cistina a través del lisosoma.
La cystine est un acide aminé qui est contenu dans les protéines, et les protéines sont détruites dans les cellules au niveau des lysosomes. Et dans la cystinose, la cystine s'accumule dans les lysosomes parce que la protéine qui permet de faire sortir la cystine des lysosomes est anormale.
La cistina es un producto de la degradación de los aminoácidos que constituyen las proteínas. En condiciones normales, estos se degradan en los lisosomas y la cistinosina es lo que permite que salga la cistina de los lisosomas. Cuando esta es defectuosa o no existe, la cistinosina, queda la cistina depositada en los lisosomas.
La cistina à forte concentration dans les lysosomes, va former des cristaux dans différents organes, au niveau du rein et également au niveau de la cornée de l'œil.
El acúmulo de la cistina se hace en forma de cristales en los lisosomas en distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, a la derecha arriba se ve un glomérulo renal y abajo la córnea.
Alors, c'est une maladie génétique rare et on estime qu'elle survient chez environ un enfant pour 200 000 enfants vivants.
Es considerada una enfermedad rara o minoritaria con una prevalencia de 1 por cada 200 000 nacimientos.
Alors, les manifestations initiales surviennent après 3 ou 6 mois, c'est-à-dire que à la naissance, les enfants n'ont aucun symptôme.
Tienen síntomas los niños al nacer y suelen aparecer los mismos a partir de los 3 o 6 meses.
Et ces premiers symptômes sont en grande partie secondaires au fait que le rein n'est pas capable de retenir suffisamment des petites molécules, et en particulier le sodium, le sel, le potassium, les acides aminés, et c'est ce qui entraîne ce qu'on appelle un syndrome de Fanconi, du nom du médecin italien qui a décrit ce syndrome de Fanconi.
Lo que ocurre primero es un problema en la reabsorción de distintas sustancias en el túbulo. Como ha explicado el doctor Álvaro Madrid, se reabsorben sustancias fundamentales como son el sodio, el potasio y aminoácidos. Este problema en la reabsorción es lo que se llama síndrome de Fanconi, que viene de un médico italiano que lo describió.
Y si no hay tratamiento adaptée, après l'âge de 5 ou 6 ans, les signes du syndrome de Fanconi diminuent, mais la fonction rénale va s'altérer et aboutir à une insuffisance rénale chronique et une insuffisance rénale terminale.
En ausencia de un tratamiento específico hacia los 5 o 6 años, ya hay un deterioro del filtrado glomerular y se dirigen hacia la insuficiencia renal terminal.
Alors, ces enfants, surtout les enfants en Europe, ont un aspect assez particulier avec des cheveux très blonds, souvent des yeux bleus, et ce qui est assez caractéristique, c'est qu'ils ont un grand volume de diurèse et ils sont polyuriques. Donc, ils ont un aspect qui est un peu assez caractéristique.
Ya ven lo que pone aquí, niños con un aspecto rubito típico de norte europeo y destaca sobre todo que orinan muchísimo.
Alors, sur le plan des symptômes, ces enfants présentent des accès de fièvre qui ne sont pas expliqués par une infection et qui sont en rapport avec la déshydratation parce qu'ils perdent beaucoup d'eau et de sel dans les urines.
Tienen problemas a veces de deshidratación porque hay un defecto de concentración del riñón. Y orinan mucho más de lo debido, y sobre todo cuando hay fiebre, que pierden agua, pues pueden deshidratarse.
Très souvent, ces enfants ont des troubles digestifs avec des vomissements, une anorexie.
Falta de apetito, vómitos.
Et puis, une polyurie très importante avec un volume d'urine qui peut aller jusqu'à 6 litres par jour. Et ça, s'ils n'ont pas de boisson suffisante pour compenser ces pertes, ça aboutit très vite à des accidents de déshydratation grave.
Sí, es muy importante que estos niños tengan acceso al agua porque llegan a orinar hasta 2 y 6 litros al día y tienen mucho riesgo de deshidratación si no beben mucho.
Donc ils s'arrêtent de grandir et ils développent un rachitisme malgré le fait qu'ils reçoivent des doses habituelles de vitamine D.
Hay un retraso de crecimiento y raquitismo en los huesos a pesar de que se les da vitamina D.
Et donc, ceci est responsable d'un ce qu'on appelle le syndrome de Fanconi qui est particulièrement sévère, avec une perte de sel. Donc, une diminution de la concentration de sel dans le sang qu'on appelle l'hyponatrémie.
Hay una pérdida de sodio que da lugar a que el sodio baja en sangre, hiponatremia.
Une perte de potassium avec une hypokaliémie.
Pérdida de potasio con hipopotasemia.
Une perte de bicarbonate qui rend le sang plus acide avec une acidose.
Pérdida de bicarbonato, lo cual hace que la sangre esté ácida.
Une perte de phosphore, une perte d'acides aminés.
Pérdida de fósforo, aminoácidos.
Des protéines qui passent dans les urines et qui ne sont pas réabsorbées dans le sang. Et du sucre qui passe dans les urines et donc une glycosurie.
Tanto proteínas como glucosa pasan a la orina. Por este problema de reabsorción aparecen en la orina que no tendrían que aparecer.
On a encore
pierden también más cantidad de calcio por la orina, lo cual puede hacer que llegue a precipitar este calcio en los riñones y dé lugar a una nefrocalcinosis.
Donc vous voyez que le fait que il y a un défaut de réabsorption de beaucoup de ces molécules dans la partie initiale du tube après le glomérule qui filtre a des conséquences extrêmement importantes à partir de l'âge de 5 ou 6 mois.
Las consecuencias son importantes a partir de los 5 o 6 meses con esto, el síndrome de Fanconi.
Alors, comment évoquer le diagnostic de la cystinose, qui est une maladie rare, Et donc, souvent, les médecins qui voient ces enfants ne pensent pas à ce diagnostic parce que les chances de voir pour un pédiatre un enfant atteint de cystinose dans sa vie professionnelle est très faible. Donc, il y a un certain nombre de symptômes qui peuvent faire penser au diagnostic de cystinose, en particulier un arrêt de la croissance après un intervalle libre de quelques mois.
Es muy importante hacer un diagnóstico precoz, especialmente porque hay tratamiento. Una de las cosas que nos puede sugerir es un retraso de crecimiento después de un intervalo al nacer que crece normalmente.
Le fait que dans les urines, quand on trempe des bandelettes, on trouve à la fois du sucre et des protéines, ça veut dire qu'il s'agit d'un syndrome de Fanconi. Et à cet âge-là, la cause la plus fréquente de syndrome de Fanconi, c'est la cystinose.
La presencia de glucosa y de proteínas en la orina en esta edad tan precoz es muy sugestiva del síndrome de Fanconi y en esta edad la causa más frecuente del síndrome de Fanconi es la cistinosis.
Quand on évoque ce diagnostic, on va rapidement demander un examen ophtalmologique et l'ophtalmologiste peut retrouver des dépôts de cystine au niveau de la cornée.
Se ven también depósitos corneales de cistina en el examen oftalmológico.
Le diagnostic va être confirmé par le dosage de cystine dans les globules blancs après une prise de sang.
Con una muestra de sangre se diagnostica determinando el contenido de cistina en leucocitos.
Et sera également confirmé par l'étude du gène et la démonstration que le gène chez ce patient présente une mutation ou ce qu'on appelle une délétion avec une partie du gène qui n'est pas présent.
Es importante hacer el diagnóstico genético donde veremos la mutación causante que puede ser diversa.
Le fait d'avoir un diagnostic génétique possible permet un diagnostic anténatal, un stade précoce de la gestation, lorsque un des enfants a la maladie.
Cuando se tiene un diagnóstico genético hecho, permite hacer un diagnóstico prenatal de un futuro embarazo, cuando ya hay un niño afecto.
Alors on va parler du traitement par cystéamine, qui est le traitement de fond de la maladie, mais malheureusement, ce traitement par cystéamine, qui retarde l'évolution de la maladie, n'empêche pas l'apparition du syndrome de Fanconi.
Ahora vamos a hablar del tratamiento con cistamina, que es el tratamiento de elección y lo que se tiene que dar, pero que no previene el síndrome de Fanconi.
Et cette maladie va donc atteindre le rein avec le syndrome de Fanconi vers l'âge de 3 à 6 mois. Et malgré le traitement de fond par cystéamine, très souvent, une progression vers l'insuffisance rénale qui peut apparaître vers l'âge de 8-10 ans ou après 10 ans. Certains enfants qui suivent le traitement de façon extrêmement précise peuvent avoir des évolutions beaucoup plus prolongées sans insuffisance rénale.
A nivel del riñón tenemos la tuberosidad proximal, que es el síndrome de Fanconi, y la insuficiencia renal, que en principio con tratamiento tiene que demorarse bastante.
Au niveau de l'œil, les cristaux de cystine que je vous ai montrés au début vont provoquer une photophobie et une gêne à la lumière, et ces enfants doivent porter des lunettes pour éviter d'être gênés par la lumière.
A nivel de los ojos hay fotofobia, o sea, les molesta muchísimo la luz y llevan gafas de sol a falta de tratamientos.
Les cristaux peuvent également se déposer au niveau de la glande thyroïde et donner des signes d'hypothyroïdie vers l'âge de 6 ans.
También se depositan estos cristales de cistina en la glándula tiroides, dando lugar a hipotiroidismo, una edad de 6 años aproximadamente.
Au niveau du pancréas, avec l'apparition d'un diabète qui va nécessiter éventuellement des injections d'insuline.
La diabetes por depósito en el páncreas que puede llegar a necesitar insulina.
Et plus tardivement, peuvent apparaître des signes d'atteinte au niveau des muscles avec une faiblesse musculaire et plus tard, éventuellement, chez certains patients, des signes au niveau du système nerveux central avec des troubles neurologiques.
Algunos pacientes en fases avanzadas desarrollan afectación muscular con debilidad muscular y encefalopatía, afectación del sistema nervioso.
Donc, le traitement, c'est ce qu'on appelle la cystéamine, qui est commercialisée par Orphan sous le nom de Cystagon, qui est un médicament qui pénètre dans le lysosome des cellules et permet que la cystine soit relarguée des lysosomes, et donc ça diminue l'accumulation de cystine dans les lysosomes.
El tratamiento es el Cystagon, que es la cisteamina, que está producido por el laboratorio Orphan Europe y lo que hace es entrar dentro del lisosoma de manera que hace salir de dentro del lisosoma la cisteamina.
Alors, ce traitement doit être débuté le plus tôt possible dès qu'on fait le diagnostic, éventuellement si c'est un diagnostic qui est fait pratiquement à la naissance, le commencer dès les premiers mois de vie. Et on augmente progressivement les doses jusqu'à environ 50 mg par kilo et par jour.
Se debe hacer el tratamiento de la forma más precoz posible, si puede ser con un mes de vida, pues mejor que con dos o con seis, y las dosis estas son las recomendadas.
Le but étant de diminuer le taux de cystine dans les globules blancs pour avoir un taux qui soit inférieur à certaines valeurs et le dosage étant fait 6 heures après la dernière prise de cystéamine.
El objetivo, lo que se mide para ver si el tratamiento es realmente efectivo es la cistina leucocitaria que debe ser de menos de 1 y se hace 6 horas después de la última toma de medicamento.
Il y a plusieurs problèmes avec ce traitement. Le premier est que l'effet du Cystagon ne dure que 6 heures. Et 6 heures après la prise de Cystagon, le taux de cystine dans les cellules augmente à nouveau.
Hay un problema importante con este tratamiento que es que solo dura 6 horas el efecto estrictamente, o sea que después de 6 horas aumentan los niveles de cistina leucocitaria.
Et pour cette raison, le Cystagon doit être pris 4 fois par jour, soit toutes les 6 heures, ce qui est extrêmement contraignant pour les enfants et pour les parents.
Sí, se debe dar estrictamente cada 6 horas. Día y noche, lo cual es muy duro para padres y niños.
Le deuxième problème avec le Cystagon, c'est que il y a des effets secondaires et en particulier le fait que le produit lui-même est responsable d'une odeur très désagréable à la fois de l'haleine et la sueur.
Otro problema con este medicamento es que el producto en sí mismo da lugar a un mal olor corporal y de aliento.
Ce qui est particulièrement gênant pour certains enfants, à la fois au niveau de la vie quotidienne, au niveau de l'école, parce qu'ils sont souvent un peu écartés des autres, et donc c'est un problème qui est particulièrement désagréable et qui nous soucie.
Es un problema considerable en niños que tienen en el colegio y tal, a veces les da problemas estos olores.
Alors, pour essayer de réduire le nombre de prise par jour. Il y a des auteurs aux États-Unis, une équipe de recherche qui a étudié comment la cystéamine était absorbée au niveau du tube digestif. Et ils se sont aperçus que lorsqu'ils administraient la cystéamine avec un petit tube qui passait au-delà de l'estomac, à ce moment-là, le taux de cystéamine dans le sang restait plus longtemps à des valeurs positives, ce qui permettait d'avoir un effet thérapeutique meilleur.
Un equipo de investigadores que vieron que si la cisteamina se daba mediante una sonda nasogástrica que iba más allá del estómago, o sea, directamente al intestino, pues la liberación era más lenta.
Il apparaissait donc que lorsque la cystéamine passe dans l'estomac, elle est détruite en partie et l'effet est moins prolongé que si ça arrive directement dans l'intestin grêle.
Parece pues que si la cisteamina va directamente al estómago, se destruye en parte y tiene menos duración su efecto que si va directamente al intestino.
Et c'est de là qu'est venue l'idée d'administrer la cystéamine dans des microparticules qui résistent à l'acidité de l'estomac et qui passent directement dans l'intestin grêle.
Y de aquí vino la idea de recubrir la cisteamina con un recubrimiento que hace que no se rompa en el estómago y pase directamente al intestino y dure más su efecto.
Et le fait de le donner dans ces microparticules fait que la cystéamine est libérée de façon progressive et lente.
Así la cisteamina se libera de forma progresiva y lenta.
Et donc il y a eu au cours de l'année qui vient de s'écouler, un essai thérapeutique qui a été effectué chez des enfants aux États-Unis, chez des enfants en Europe, en particulier en Hollande et en France, qui ont reçu cette nouvelle formulation de cystéamine qui est... pas encore commercialisée, mais qui est produite par le laboratoire Raptor aux États-Unis.
Durante este año, en 2011, se ha hecho un ensayo en Europa, básicamente en Francia y Holanda, con este producto que lo manufactura el laboratorio Raptor de Estados Unidos.
Alors, dans mon service, nous avons eu 6 enfants qui ont été traités dans le cadre de ce protocole.
Él ha tenido experiencia con 6 niños tratados con este protocolo.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les autorités de santé aux États-Unis ou en Europe sont extrêmement exigeantes avant d'autoriser la commercialisation d'un nouveau médicament.
Sí, las autoridades sanitarias, tanto en Estados Unidos como en Europa, son muy cautas a la hora de aprobar un nuevo medicamento.
Et donc, le protocole, l'essai qui a été effectué, était extrêmement contraignant, à la fois pour les familles et pour les enfants.
A pesar de que este protocolo era realmente muy útil, tanto para las familias como para los niños.
Il y avait des périodes de 3 semaines où ils prenaient soit le cystagon, soit la nouvelle formulation, et 3 semaines après, c'était l'inverse. Et pendant ces périodes, ils devaient venir à l'hôpital pratiquement 8 à 10 fois tôt le matin pour avoir des prélèvements.
Sí, realmente el protocolo era bastante engorroso, yo he dicho, bueno, era engorroso para las familias y para los niños porque tomaban durante unas semanas un medicamento, durante otras semanas otro medicamento y tenían que ir muchas veces al hospital.
Donc vous imaginez la contrainte que ça a pu représenter pour ces familles et pour ces enfants. Et ce protocole-là a été imposé par les autorités américaines pour être sûr que, à la lecture des résultats, on saurait si le nouveau produit avait la même efficacité que la forme que l'on utilise actuellement, qui est le Cystagon.
Este protocolo tan engorroso y molesto para niños y familias ha sido impuesto por la FDA americana para aprobar este medicamento.
Alors, il y a une quarantaine d'enfants qui ont été traités de cette façon-là, et les résultats sont positifs dans la mesure où on a pu démontrer que cette nouvelle formulation donner des résultats qui étaient équivalents à ceux obtenus avec le Cystagon en 4 prises. Là, il est donné en 2 prises, matin et soir, ce qui change complètement la vie des familles qui n'ont plus à se réveiller la nuit et les enfants qui n'ont pas à prendre ça, soit pendant la nuit, soit pendant la journée à l'école.
Se ha hecho el estudio en 40 niños, se ha visto que funciona muy bien y esto va a cambiar mucho la vida de estos niños y de las familias porque se toma 2 veces al día y entonces ya no afecta al sueño ni al ritmo de colegio, etc.
Avant que le médicament puisse être commercialisé, les autorités sanitaires ont demandé de faire une étude chez des enfants plus jeunes, c'est-à-dire de moins de 6 ans, et des enfants transplantés ou des adultes transplantés, dans la mesure où jusque-là, cet essai était uniquement réservé à des enfants de plus de 6 ans, mais qui n'avaient pas d'insuffisance rénale sévère.
Las autoridades han pedido que se haga un estudio en niños de menos de 6 años y en pacientes con cistinosis trasplantados, porque esto se estaba hecho en niños de más de 6 años sin trasplantar.
Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que, après une période de 6 à 12 mois, l'ensemble des enfants atteints de cystinose puissent disposer de ce nouveau traitement. Mais pour le moment, nous n'avons aucune idée de savoir à quel moment ce sera disponible et commercialisé.
Esperamos que en 6-12 meses se puedan beneficiar de este tratamiento, pero en este momento no hay ni la más remota idea de cuándo va a ser aprobado.
Alors, les autres traitements, c'est bien sûr lorsqu'il y a une insuffisance rénale terminale, le recours à la transplantation rénale qui permet de retrouver un rein qui fonctionne normalement. La maladie ne se reproduit pas sur la greffe et la greffe a une possibilité de fonctionner tout à fait correcte dans cette indication-là.
Le trasplante rénal fonctionne très bien en ces enfants et la maladie non récidive en l'injerto, con lo cual el pronóstico es muy bueno.
Alors, lorsqu'il y a un problème de diabète, ça peut être l'insuline. Lorsqu'il y a une hypothyroïdie, l'hormone thyroïdienne.
Insulina, hormona tiroidea, hormona de crecimiento, todo esto para compensar los defectos que tiene.
Et puis, chez des enfants qui ont un retard de croissance important, même en l'absence d'insuffisance rénale, ce qui est le cas au cours de la cystinose très souvent, un traitement par hormone de croissance a un effet extrêmement bénéfique et ces enfants peuvent être traités relativement précocement pour rattraper le retard qu'ils ont acquis pendant les premières années.
Le tratamiento con hormona de crecimiento es muy eficaz y permite un crecimiento normal de estos niños.
Alors, pour terminer, je voudrais juste dire que au cours de la dernière année, nous avons mis en place un registre européen pour recueillir les données individuelles des patients atteints de cystinose de façon à... Pardon, oui. de façon à mieux appréhender l'évolution à long terme chez l'adulte, d'évaluer l'efficacité des traitements et la tolérance de ces traitements.
Bueno, esto es el registro este europeo de cistinosis que han hecho para recoger todos los datos, la evolución, la respuesta al tratamiento, tolerancia, eficacia.
C'est un registre qui est élaboré dans une base de données qui s'appelle SEMARA, qui est une base de données pour les maladies rares en France. Et il y a un chapitre spécial qui a été créé pour la cistinose.
Bueno, c'est le contexte d'une plateforme que tiene que se llama SEMARA en Francia para enfermedades raras.
Donc il y a dans ce registre qui est accessible sur Internet, bien sûr avec des codes, les données initiales, l'évaluation clinique, les traitements, les effets secondaires, et puis l'évolution, où on peut rentrer chaque année les données sur l'évolution et les données génétiques.
Es importante recoger todos estos datos, ir haciendo el seguimiento anual de estos pacientes en el registro.
Alors actuellement, on a créé ce registre en langue anglaise pour que ce soit accessible progressivement à d'autres pays. Ça, on a rentré à peu près toutes les données des enfants en France et c'est fait également à Rome, en Italie, en Hollande. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir l'étendre à d'autres pays qui seraient susceptibles de vouloir bénéficier et rentrer dans ce registre européen.
Lo han hecho en inglés también para poder hacer un registro europeo y hay diversos países, Italia, Holanda y no sé quién más ha dicho que también ponen los datos y la idea sería que fuese un registro completo europeo.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui concerne la cistinose. Peut-être répondre aux questions avant de passer au deuxième sujet.
Sí, ahora cambiará de tema porque hablará luego del síndrome hemolítico urémico. Y si hay alguna pregunta de cistinosis que se le quiera hacer ahora, tengo que decir que el doctor Nioden no estará luego en los talleres, por lo tanto, creo que no. Nous sommes assez pressés, mais on va essayer de faire quelques questions maintenant, parce que vous ne serez pas ici après l'après-midi, non ?
Oui.